J'ai juste une question. Ceci dit, je le sais, peut-être c'est déjà fait. Je voudrais juste savoir si ce livre en question a déjà été ou sera édité italien pour les Italiens et pour le marché italien, ce qui me semble a priori une évidence.
On va donner la parole à Laetitia.
Bonsoir. Non, mais en fait, notre responsable des droits étrangers vient de partir. Donc là, elle vient d'être remplacée. Alors, je me proposais justement de retourner vers elle pour lui demander si elle a déjà prospecté. Et voilà. Et notamment, à la foire de Francfort, je crois que le directeur du département a aussi pris des marques. Mais là, faudra qu'on voit ça avec les auteurs. Mais j'espère bien
transmettre l'information.
Oui, oui, tout à fait. Et j'espère bien qu'il sera traduit parce que ça vaut le coup quand même. C'est un très beau livre.
Merci. D'autres questions, remarques ou...
Vous n'avez pas abordé du tout la question des brigades rouges, tous ces mouvements-là, si vous voulez, peut-être plus proche de l'Allemagne.
Bien sûr, la question est abordée dans le livre parce que je parlais tout à l'heure de friction franco-italienne dans les deux dernières décennies. C'est vrai qu'il y a deux sujets qui posent problème aujourd'hui. D'un côté, c'était Berlusconi, d'autre part, c'était la mémoire des années de plomb. Donc il y a tout un chapitre qui est consacré à cela, c'est-à-dire la question d'une part de la manière dont on a vécu la période terroriste. N'oublions pas qu'en France, il n'y a pas l'équivalent. Si, bien sûr, il y a Action directe, mais ça n'a pas la même ampleur que les années de plomb en Italie. Et ensuite, la question des réfugiés politiques, entre guillemets, italiens qui sont venus en France. La question qui est abordée en même temps dans le chapitre relatif à François Mitterrand. François Mitterrand qui accueille, bien sûr, les questions de la doctrine de Mitterrand qui n'est pas tout à fait explicitée de cette manière-là, mais qui crée de l'embarras parce que d'un côté, on continue d'accueillir, on ne souhaite pas renvoyer en Italie, aussi parce que les Italiens ne souhaitent pas forcément récupérer les anciens des brigades rouges, c'est un aspect important. Mais d'autre part, reconnaître un statut de réfugié politique, ça voudrait dire que l'Italie n'est pas une démocratie, ce qui pose bien entendu problème. Ensuite, il y a également les avatars de cette question-là jusqu'à nos jours, et là, il y a également quelques paragraphes qui concernent ensuite les années de Nicolas Sarkozy. Alors tout à l'heure, on me demandait un pronostic sur les futures élections. Je dirais simplement qu'il n'y aura pas, probablement pas, de nouvelle First Lady italienne lors du prochain.
Bien. Encore une question ? Oui, je vous en prie.
Je pensais tout à l'heure, j'en ai parlé à l'auteur italien, justement, au niveau de la promotion du livre. J'ai suggéré la possibilité, une chose qui serait intéressante, serait de joindre les co-auteurs ou les acteurs d'une web-série qui s'appelle Rital. Je ne sais pas si vous avez dû en entendre parler. Je pense que le livre serait super bon comme name-dropping dans cette série-là. Mais en l'occurrence, je n'ai pas encore lu le livre et je voulais savoir si vous abordez la thématique mercantile et économique et donc les comment dire... Tous ces univers-là qui se rejoignent et où ce sont deux grandes nations, la France et l'Italie, qui sont deux grandes nations commerçantes. Et justement, une question que je me posais, en liant cet aspect économique et promotionnel, d'où viennent les semaines italiennes et les semaines françaises est-ce que la thématique est abordée et ça pourrait être un autre moyen de promotion intéressant pour vous?
Je crois qu'elle est abordée par nous trois, donc je vais donner la parole.
Oui, à travers les époques, il y a quelque chose qui est très important, c'est de ne pas dissocier la politique de l'économie. On peut donner un exemple de cela dans une époque assez ancienne. C'était début du XVIIIe siècle, lorsque, après plusieurs décennies d'alliances très fortes, pour ne pas dire un peu dominantes, de la France sur la Savoie, partir de la Ligue d'Augsbourg, ça s'appelle, c'est un peu technique, mais sous Louis XIV, il y a séparation, il y a rupture des rapports, et il y a prise d'autonomie de la Savoie, du duché de Savoie, le futur royaume de Piémont-Sardaigne, et à ce moment-là, le Piémont ne peut plus commercer avec la France de manière aussi forte qu'avant. Et il en résulte tout un refaçonnement de l'économie qui est une des racines d'un développement piémontais très fort au sein de la péninsule, c'est-à-dire d'un Piémont qui est désormais tourné vers la péninsule et qui n'est plus dans une relation de suggestion économique avec la France et de complément. Donc ça, c'est un élément qui nous montre combien la prise en compte de l'évolution des rapports diplomatiques, ça avait été montré par un historien de l'économie qui s'appelle Pierre Léon, a eu des répercussions sur la réorganisation, non seulement du côté italien du Piémont, mais aussi du côté français. Le Dauphiné, par exemple, s'est mis à produire cette matière première, qui, les cocons, par exemple, pour le verre à soie, qui ont servi à l'industrie lyonnaise et au fameux canut lyonnais, qui a fait prospérer Lyon au XVIIIe, en liaison avec cette fermeture de la frontière savoyarde. Donc, ceci pour dire, effectivement, que la dimension de conflictualité a pu être aussi à l'origine du développement de certaines ressources propres dans chacun des deux pays, dans chacun des deux groupes. Oui.
Voilà. Alors là, j'abonde tout à fait. J'en prie, j'abonde tout à fait dans le sens. Non, oui.
Pardon. Vous permettez.
Non, mais je vous en prie. Alors, je vais totalement dans le sens de Gilles. Le lien économie-politique est absolument au cœur du 19e siècle. C'est-à-dire, il faut comprendre aussi que, bien sûr, on voit les guerres, Solferino, etc. Mais la Banque Rothschild, enfin, la Banque Rothschild est dans plusieurs pays, mais la Banque Rothschild à Paris, finance entièrement la dette publique italienne pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'elle traite d'égal avec les grandes puissances. Alors après, justement, tout un effort de l'Italie va ne plus dépendre d'un seul pays. D'où sans cesse un jeu de balancement entre l'Allemagne et la France. Il y a des rivalités de banques, les banques, des vraies guerres, hein, des vraies guerres commerciales qui ont d'ailleurs même des conséquences politiques extrêmement importantes. L'Italie veut être indépendante économiquement. Alors c'est très dur parce qu'une partie du développement industriel, on le finance, c'est la vieille idée, on le finance avec du capital en général qui vient de l'agriculture, mais il y a besoin d'emprunts extérieurs. Or les emprunts, ils se font où ? Ils se font principalement en France et en Allemagne. Et là, on pourrait dire vraiment que l'Italie, entre les deux, son cœur balance entre Berlin et Paris. D'ailleurs, pour d'autres raisons aussi, c'est deux modèles qui pour elle. Et la dimension la économique est absolument essentielle. Et y compris pendant la Première Guerre mondiale, un des éléments pour attirer l'Italie du côté de l'entente, c'est de lui faire des promesses en termes de marché, en termes de débouchés, etc. Alors pour la petite histoire qui rejoint la grande, l'attaché commercial, c'est Paul Claudel. Et qui justement, lui, fait un constat assez intelligent en disant mais ça va être très dur, une complémentarité, parce que finalement, on produit les mêmes choses. Mais sur certains domaines, nous, Français, on produit mieux que les Italiens. Et dans d'autres domaines, les Italiens produisent. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme complémentarité ? C'est intéressant aussi pour les sources de l'Union européenne. Là, il y a déjà une difficulté. Donc, c'est totalement les relations économiques, bancaires, commerciales, etc. sont absolument au cœur. Alors, la France a longtemps joué la carte de l'Italie. Je vais vous faire rêver avec des taux. Vous étiez un petit peu sous le Second Empire. Vous pouviez prendre une dette italienne et c'était en gros remboursé à 7-8%. Je pense que si une banque vous propose ça aujourd'hui... très vite, le banquier va se trouver en prison. Et la France va faire un autre choix, qui est de tout transférer vers la Russie. Par contre, là, le choix sera assez malheureux pour les épargnants, puisque je crois qu'ils attendent toujours d'être remboursés. Mais ça sera sans doute réglé un jour.
Merci. Dernier mot pour Alessandro.
Alors, également un paradoxe. Aujourd'hui, la France et l'Italie sont toujours le deuxième partenaire commercial, en ce moment le troisième, mais c'est juste cette année. Donc, l'importance du commerce franco-italien est immense, infiniment supérieure au commerce franco-américain ou au rapport avec la Chine. Et pourtant, je pense qu'on parle beaucoup plus des ventes d'Airbus à la Chine que du commerce franco-italien. Avec un paradoxe tout de même, l'histoire de ces dernières années, c'est quand même une histoire d'une série d'échecs. Pensons à la guerre de l'énergie que se sont livrés Enel et EDF. Pensons à la tentative de fusion dont il a été question il y a 20 ans entre Fiat et Renault. C'est quand même paradoxal que Fiat trouve plus simple de travailler avec Chrysler et General Motors et Renault avec Nissan. Pensons enfin à l'échec le plus récent et le plus coûteux également pour le contribuable italien, c'est-à-dire la fusion qui a échoué entre Alitalia et Air France.
Merci. Psychodrame derrière ça. Merci. Marc, à vous la parole.
Simplement pour vous remercier. Et je crois que réellement, vous nous avez dépeint
tout ce qui, tous les aspects qui sont, qui font les rapports entre la France et l'Italie. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de sources au sein du livre. Donc je reprends ma casquette de libraire pour dire n'hésitez pas à approfondir ou à retrouver quelques éléments dans le livre, mais il y en a encore à retrouver dedans. Et, mais en attendant, ce que je vous propose, c'est de boire un verre et de pouvoir retrouver en plus trois auteurs, un coordinateur. Vous avez quatre personnes à pouvoir à qui vous pouvez poser des questions et faire un off en buvant un verre. Merci,
et merci
à
vous. En tout cas pour votre présence.